Journal de Maïma. Phew. Le pick-up Toyota Tacoma disparaît au bout de l'allée de gravier, emportant Clem, maman et les autres, ne me laissant qu'un éphémère nuage de poussière, puis le sentiment immédiat d'être seul au monde. C'est ce que je ressens. Le phew, dit-on ici. La mélancolie qui s'installe chez chaque Polynésien quand il a cessé de lutter, d'espérer partir, au moins voyager, et qu'il a compris qu'il terminerait sa vie ici, à des milliers de kilomètres de tout autre continent. C'est ce qu'a accepté Tanae. C'est ce qu'accepteront Moana et Poé. Pas moi. Tanae m'observe tourner en rond, alors que le 4x4 n'est pas parti depuis plus de 5 minutes.
Tu sais, Maïma, c'était bien pire avant.
Poé et Moana ont terminé de nettoyer la cuisine. Elles se sont installées dans le canapé devant la télé qui diffuse une série policière américaine.
La solitude, précise Tanae. L'isolement, l'impression d'être seul sur Terre. La télévision n'est arrivée aux Marquises qu'en 1988. T'imagines? Avant, on n'avait aucune information venant du monde extérieur. Ou, juste 10 ans avant, ce qu'on appelait télévillage. Des cassettes vidéo de journaux télévisés qui arrivaient par bateau avec 3 mois de retard.
Non, Tanae, je n'imagine pas. Poé et Moana non plus sans doute. Et si je me force quand même à imaginer, alors je me dis que c'était mieux avant, sans Internet ni télésatellite pour montrer aux Marquisiens tout ce à quoi ils n'auront jamais accès. À la télé, une fusillade entre 2 motos éclate dans un centre commercial. Des vitrines explosent, des sirènes hurlent, des passants plongent à terre. Ça fascine Moana et Poé, leurs 4 mains crispées sur la même télécommande. Je demande timidement, sur la pointe des lèvres. « Tanae, je peux aller dans mon bungalow ?» L'hôtesse me regarde avec méfiance.
« Tu me promets de ne pas sortir du soleil redouté ? Sinon, cette fois, tu... »
« J'abrège. J'ai gagné. Je te promets. Je ne suis pas cinglé. » « Promis, Tanae. » Et je répète dans ma tête. « Promis, je ne sors pas du soleil redouté. » Je vérifie du bout des doigts si les gants de plastique empruntés dans la cuisine sont encore au fond de ma poche. Puis j'observe le premier bungalow. Nuku Hiva. Celui de Yann mon capitaine et de Farahine la commandante. Inutile de fouiller dans celui de Titine, ni dans le mien, qui est aussi celui de maman, évidemment. J'ai déjà vérifié ses empreintes sur le briquet. Restent les 3 autres. Le Nuku Hiva, donc, puis le Ua Uka d'Héloïse et le Tawata de Clem. Je sais qu'y entrer, même sans la clé, ne sera pas compliqué. J'ai repéré l'espace entre le toit de Pandanus et les poutres. Trop facile pour moi d'escalader la façade, de me glisser sous les charpentes, de me suspendre et de retomber à l'intérieur. À la limite, il sera plus difficile de remonter. Je devrais grimper sur une chaise pour atteindre la poutre. Je laisserai forcément une trace de mon passage. Mais Farahine, Clem ou Héloïse pourront toujours croire que c'est Tanae, Poé ou Moana qui sont venus faire le ménage. Je prends le temps d'écouter les coups de feu qui crépitent de la télé allumée dans la salle Maïva, les jurons de Tanae après les poules qui tentent de s'approcher des saladiers posés sur les fenêtres, et en quelques mouvements de gymnaste, façon Catwoman, j'escalade la façade et je me faufile par le trou d'anguille. Je m'érafle un peu la peau du ventre aux feuilles coupantes de Pandanus. Pas grave. Puis je rampe sur la poutre de bois de fer, je me suspends en mode chimpanzé, et je retombe sur mes pieds entre le lit et le bureau du bungalow. Celui de Yann et Farahine. Yann n'aimerait pas. Yann n'aimera pas, quand il le saura. Mais je n'ai pas le choix. Nous devons comparer toutes les empreintes avec celles relevées dans le bungalow de Titine, sans exception. J'ai osé tester celle de maman, Yann devra oser vérifier celle de sa femme. Je me déplace le plus silencieusement possible dans le bungalow. J'enfile mes gants. J'ouvre mon sac. J'ai décidé d'emprunter les objets les plus personnels de chacune des lectrices. Un tube de dentifrice, une brosse à dents, un flacon de parfum, un rouge à lèvres, pour être certaine de ne pas me tromper. Je file dans la salle de bain. Immédiatement, je suis rassuré, car assuré de ne pas pouvoir commettre d'erreur. Les affaires de Yann sont rangées à gauche. Un rasoir, une bombe de mousse à raser, un aftershave. Celle de Farahine, à droite. Chacun sa place. Je remplis mon sac, puis reviens dans la pièce principale. Je ne peux résister à l'envie d'ouvrir les portes du placard, strictement identique à celui de mon bungalow. Chacun sa place, ici aussi. Chacun son côté d'étagère.
les habits de Yann à gauche, ceux de Farain à droite. Pareil par terre. Basket et sandales de Yann à gauche, nu-pieds, tongs et basket de Farain à droite. Je me retourne. Chacun son coin de lit, chacun son chevet. Un magazine de sport automobile pour Yann, un recueil de mots fléchés pour Farain. Waouh ! La visite dans l'intimité de mon capitaine a achevé de me chambouler. Est-ce que tous les couples finissent ainsi ? Sans plus rien partager ? Sans plus rien mélanger ? Est-ce que tous les amoureux finissent par se contenter d'une cohabitation tant qu'elle est pacifique et chaque territoire respecté ? Moi, jamais. Et je ne vais pas me priver de sauter par-dessus la frontière invisible entre mon capitaine et la commandante. Côté droit d'abord. Je soulève sur l'étagère la mince pile de vêtements de la commandante. Je n'ai pas besoin d'insister. Le manuscrit se trouve là. À peine dissimulé. La chemise rouge de carton, fermée par des élastiques, dépasse des autres chemises de coton. Le titre est inscrit sur la couverture. Terre des hommes, tueur de femmes. Je suis la meilleure. J'attrape le carton, excité comme jamais. Il glisse vite, trop vite, et me paraît étrangement plat. Merde. Je fais sauter les élastiques. Le carton rouge est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Pas une page. Merde. Tout en replaçant, dépité, la chemise sous la pile d'habits, j'échafaude plusieurs hypothèses. Quelqu'un avant moi serait venu voler le manuscrit pour le ramener à PYF? Ou Pierre-Yves François s'est-il servi lui-même? Ou plus vraisemblablement, Farain l'a emporté avec elle dans son sac, méfiante de tout et de tous. Prudente, la commandante. Je traîne encore un peu. Je résiste à l'envie de tout mélanger, fringues et brosses à dents, parfums et mocassins, chaussettes et paires de lunettes. Puis, je monte sur une chaise, j'attrape la poutre et je me faufile à nouveau dans mon trou. Tout est redevenu calme au soleil redouté. Plus aucun bruit ne filtre jusqu'à la terrasse. Ni bourdonnement, ni hennissement, ni caquettement. Même les flics dans la télé paraissent s'être tous entretués. Direction Ouahouka. Je connais le chemin et je me retrouve moins d'une minute plus tard dans le bungalow d'Héloïse. Tout a été aménagé à l'identique à l'intérieur de chaque pavillon, même lit, même placard, même douche, même WC. Et pourtant, tout me semble différent. À commencer par ce parfum d'encens qui flotte dans la pièce. Avant de me mettre à fouiller, je chasse le sentiment de culpabilité qui m'oppresse peu à peu. Je martèle intérieurement toutes les bonnes raisons qui me poussent à agir en voleuse et que personne ne viendra contredire. J'agis pour la bonne cause. Je cherche à démasquer un assassin. La police procéderait comme moi. Je me contente de lui donner un coup de main. Je collecte, aussi vite que je peux, dans un second sac en plastique, un dentifrice, une brosse à dents, une autre à cheveux, une pince. Ça suffira. Ou presque. Je ne peux pas résister. J'ouvre le placard, à l'affût de tout ce qui pourrait m'en apprendre davantage sur la personnalité de la plus mystérieuse des cinq lectrices. La garde-robe d'Héloïse ne me révèle rien. Ou presque. Sur l'étagère sont rangées les robes légères, les pareos colorés, les jupes ethniques, les tops en lycra, autant de vêtements qui ne deviennent sexy qu'une fois portés par une jolie fille, réussissant à faire croire qu'elle les a choisis au petit bonheur sur une pile. En est-il de même pour les sous-vêtements et nuisettes en dentelle que je découvre dans la poche latérale de sa valise ? Un truc à rendre les hommes fous, je suppose. Héloïse cacherait-elle son jeu ? Déprimée la journée, libérée la nuit ? J'enregistre tout dans ma tête. Je passe vite sur le matériel de peinture stocké sur une autre étagère. Tube de gouache, pastel, crayon gras, pinceau. J'en fourre un dans mon sac, ainsi qu'un tube de peinture terre de sienne. Et j'avance vers le lit. Sur le chevet n'est posé qu'un livre. Loin des villes soumises. De Pierre-Yves François, aux éditions Servanastine. Je me souviens vaguement qu'il s'agit du livre le plus connu de PYF, celui pour lequel il a remporté plusieurs prix, ou un seul peut-être, mais important. Les pages du livre sont gondolées, pas au point que le livre soit tombé au fond d'une piscine, mais assez pour comprendre qu'elles ont été tournées des centaines de fois, lues et relues à en être tordues. Je m'assois sur le lit, intrigué. J'ouvre le roman. Certaines pages sont cornées, certaines phrases soulignées, des paragraphes entiers entourés. Je ne peux m'empêcher d'avoir une brève pensée pour le gros Pierre-Yves, pour son appétit de cochon sauvage, ses discours de prof assommants. Et pourtant, une fille aussi jolie qu'Héloïse, et sans doute des milliers d'autres en France et dans le monde, On passait des heures, des nuits, à fantasmer sur la symphonie de mots que ce type a su composer. Je souris en imaginant le moment où Héloïse s'est retrouvée face à Pierre-Yves François pour la première fois, alors que mes doigts feuillettent le livre au hasard et s'arrêtent sans que je leur en donne l'ordre. Un marque-page est glissé dans le livre, page 123. Je baisse les yeux. C'est une photo, pas un marque-page. Celle de deux enfants. 6 et 8 ans, je dirais. Un garçon et une fille, bien coiffés, bien habillés, sages. Trop sages, comme des images, c'est le cas de le dire. On dirait des images, davantage que des vrais enfants. Je me penche un peu plus sur la photo, et je comprends. Il s'agit d'une photo de classe. Les deux enfants posent assis à un bureau d'école, devant un tableau. C'est sans doute ce qui explique leur sourire trop sérieux. Je retourne la photo. Vous me manquez tellement. Je vous aime. Je vous aime tant. Illico, ça me fiche une frousse terrible de lire ces mots. Vite, je retourne à nouveau la photo. J'ai l'impression que si je regarde trop longtemps ce garçon et cette fille, ils vont s'effacer, comme dans les films d'horreur. Avec leur visage si blanc, leurs mains si pâles, on ne dirait pas de vrais enfants. On dirait des fantômes. Vous me manquez tellement. On dirait qu'ils sont morts. Aussi rapidement que je le peux, je replace la photo entre les pages, je replace le livre sur le chevet, je tire sur le drap du lit et je sors du bungalow Waouka, ne laissant derrière moi qu'une chaise au milieu de la pièce. Même façade, même toit, même trou, même poutre. Bungalow Tawata. Chez Clem. Cette fois, je parviens de moins en moins à repousser ce foutu sentiment de culpabilité. Ok, Ian, si tu Clem tout en haut sur la liste des suspects, mais moi, je la place tout en bas. Elle est mon amie. Je lui aurais demandé, Clem m'aurait fourni ses empreintes sur n'importe quel bout de papier. Pas besoin de venir fouiller dans son intimité. Je fourre mécaniquement dans un troisième sac, un troisième dentifrice, une bouteille de plastique presque vide, un gobelet, un tube d'aspirine. Impossible de ne pas jeter un coup d'œil supplémentaire aux étagères. Les portes du placard sont grandes ouvertes. Chez Clem, c'est le bordel. Si un jour elle se met en couple, elle sera du genre difficile à convertir à la cohabitation pacifique. Un peu comme moi, j'espère. Clem, tu m'apprendras. Les étagères sont encombrées de plusieurs dizaines de livres. La valise de Clem devait peser une tonne, et aucune culotte en dentelle ou jupe légère pour équilibrer la balance. Rien que des tenues confortables, qui paraissent avoir été achetées sur le bon coin à des légionnaires de retour d'un trekking dans le Sahara. Je détaille rapidement les titres des livres, et j'identifie pêle-mêle quelques classiques, plusieurs livres de PYF, des anthologies de poètes, des dictionnaires de synonymes, de rimes, et une dizaine de carnets dont Clem a inscrit le titre sur la tranche. Contes d'enfance et autres récits merveilleux, 1996-2006. Nouvelles et poèmes adolescents, 2007-2012. Scénarii cinéma, séries et BD, tome 1. Scénarii cinéma, séries et BD, tome 2. Romans achevés et inachevés, tome 1, 2 et 3, 2013. Je suis impressionné. Il y en aurait pour des heures, des nuits à tout lire. Je serais la pire des idiotes de vouloir commencer. Je porte déjà une chaise au centre de la pièce, pressé de filer par les toits et de rejoindre Poe et Moana devant la télé, comme si de rien n'était, quand je repère le tiroir entrouvert de l'une des deux tables de chevet. Je m'en veux, je vous jure que je m'en veux, mais une fois encore, la curiosité est trop forte. Je pose la chaise et tire la poignée du chevet. Ma petite main gantée se referme sur une nouvelle photographie. Une photographie que je reconnais cette fois. Titine. Titine beaucoup plus jeune. Elle doit avoir une trentaine d'années sur la photo, prise quelque part en Belgique. Il semble faire super froid. Bonnet blanc et joues bleues. Titine jeune et moins jolie que je l'avais imaginée. Un peu boulotte, avec un visage rond, des seins ronds. Mais son sourire emporte tout. Un sourire de schtroumpfette et des yeux qui pétillent de désir, offerts au photographe qui l'immortalise. S'agit-il de son fameux amoureux? Celui qu'elle n'a jamais revu. Encore une équation à 36 inconnues. Je serre le papier glacé entre mes doigts. Pourquoi Clem possède-t-elle cette photo de Titine? Quel lien secret peut-il exister entre elles? Martine devait avoir 70 ans. Clem en a sûrement un peu plus de 30. Mère et fille? Pourquoi pas? Même si je n'y crois pas, aucune ressemblance entre les deux ne saute franchement aux yeux. Je me replonge dans le cliché, traquant le moindre détail. Petit à petit, une nouvelle certitude s'impose, contre laquelle je tente en vain de lutter, tant elle me semble stupide. Cette photo a été prise il y a près de 40 ans, sur la place d'une ville de Belgique. Je n'étais pas né il y a 40 ans. Je n'ai jamais mis les pieds en Belgique. Et pourtant, je suis persuadé d'avoir déjà vu ce visage. Celui de Titine, quand elle avait 30 ans.